Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer les lipodystrophies et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Marie-Christine Mantiguen et le docteur Élise Bismuth. Professeur Mantiguen, docteur Bismuth, bonjour.
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 Professeur Mantiguen, vous êtes endocrinologue, chef du service d'endocrinologie, diabétologie, maladies métaboliques et nutrition du CHU de Lille. Et docteur Bismuth, vous êtes pédiatre au sein du service d'endocrinologie et diabétologie pédiatrique de l'hôpital Robert Debré à Paris. Vous coordonnez chacune un centre de compétences PRISIS qui prend en charge les maladies rares de l'insulinosécrétion et de l'insulinosensibilité en lien avec le centre de référence du professeur Vigouroux de la filière Firando. Le centre de Lille pour vous, professeur Mantiguen, et le centre de Robert Debré en collaboration avec le professeur Carrel pour vous, docteur Bismuth. Alors tout d'abord, professeur Mantiguen, chez un patient adulte, quels sont les principaux signes cliniques qui doivent faire évoquer une lipodystrophie ?
Alors, on est amené à évoquer une lipodystrophie devant une personne qui consulte pour un diabète souvent sans surpoids et non insulino-requérant. Alors, c'est vraiment un diagnostic clinique par excellence dont le diagnostic va être posé sur l'interrogatoire, notamment les antécédents familiaux de cas similaires ou les antécédents familiaux de pathologies cardiaques et sur l'inspection. Et il est très important de pouvoir examiner les patients en sous-vêtements pour pouvoir analyser la répartition du tissu adipeux. C'est vraiment ça qui fait le diagnostic. Il existe également quelques particularités du visage, des mains. On peut avoir parfois une petite note myopathique qu'on va détecter à la marche, au mouvement d'accomplissement, etc. Donc vraiment, diagnostic d'inspection et diagnostic d'interrogatoire, le plus souvent chez quelqu'un qui présente un diabète qui semble un peu atypique.
Et chez l'enfant, docteur Bismuth, est-ce que ces signes cliniques évocateurs sont les mêmes ?
Alors, l'aspect lipoatrophique, pourtant présent en période néonatale et dans la toute petite enfance, en fait, il n'est pas forcément repéré spontanément par les familles ou le médecin traitant. Alors, le plus souvent, ce sont d'autres manifestations d'organes, comme par exemple une hépatomégalie qui amène à se questionner ou à repérer un éventuel aspect lipoatrophique. Ça donne en fait aux nourrissons, alors qu'ils sont de poids normal le plus souvent, un aspect musculeux, un aspect de réseau veineux superficiel visible, des aires ganglionnaires très visibles. Alors, pour bien repérer cela, il est bien sûr indispensable de déshabiller les nourrissons, hein, mais ça, les pédiatres le font dans leur pratique courante. Mais il faut vraiment notamment retirer la couche. Cette lipoatrophie, elle se voit généralement pas mal au niveau notamment de l'aspect des fesses et des cuisses. Donc, c'est bien important de retirer la couche. Alors, s'il y a des signes cliniques de diabète, bien sûr, associés à cet aspect physique particulier, ça fait penser au diagnostic. Ensuite, chez l'enfant plus grand, à l'adolescence, comme chez l'adulte, c'est principalement l'apparition d'un diabète non auto-humain qui pourra faire évoquer le diagnostic et on recherchera à l'inspection et à l'interrogatoire finalement les mêmes éléments que décrits précédemment par le professeur Mantiguen.
Et chez l'adulte, professeur Mantiguen, comment établir le diagnostic de certitude ?
Alors, le diagnostic va d'abord être évoqué sur des éléments de biologie de routine, comme la glycémie, l'hémoglobine glyquée, le bilan hépatique, le bilan lipidique, et puis également les CPK, qui sont des enzymes musculaires, et le taux de leptine, qui reflète la masse de tissu adipeux. Lorsque la leptine est basse, on peut évoquer une insuffisance de tissu adipeux, et donc un syndrome lipoatrophique. Et le diagnostic de certitude repose sur le diagnostic génétique, donc un prélèvement, un simple prélèvement sanguin, mais avec consentement du patient, bien sûr, après lui avoir expliqué ce qui est recherché, et va être analysé dans un laboratoire de référence.
Et en pédiatrie, docteur Bismuth, ce diagnostic, comment l'effectuer ?
Alors, pareil, en période néonatale et dans la toute petite enfance, ce sont principalement les anomalies métaboliques, donc telles qu'un diabète, une hypertriglycéridémie, une cytolyse hépatique, associées à cet aspect lipoatrophique qui peuvent vraiment fortement conforter l'hypothèse diagnostique. Comme chez l'adulte, le diagnostic de certitude, il est génétique, et avec au mieux le prélèvement, bien sûr, de l'enfant et de ses deux parents. Ensuite, à l'adolescence, on proposera l'analyse génétique en contexte de diabète non auto-humain, avec un contexte clinique et biologique quand même compatible avec un syndrome lipodystrophique, donc notamment s'il y a une dyslipidémie associée, une stéatose hépatique, une cytolyse hépatique, un taux d'insulinémie élevé en l'absence de surpoids, également un taux de leptine, bah, tout ça, ça peut être évocateur.
Et quel diagnostic différentiel faut-il écarter chez ces patients adultes, professeur Mantiguen ?
Alors, les diagnostics différentiels sont les autres formes de diabète non insulino-requérant chez des personnes qui sont minces, donc ça peut être des cytopathies mitochondriales, ça peut être des diabètes de type maudit, mais en général, la lipoatrophie fait le diagnostic. L'acromégalie, le syndrome de Cushing sont donc des hypersécrétions de cortisol, et puis certaines formes de maigreur, quelle qu'en soit la cause, qui peuvent poser une question de diagnostic différentiel avec les syndromes lipoatrophiques généralisés.
Chez l'enfant, docteur Bismuth, quels sont les diagnostics différentiels à écarter?
Alors, en période néonatale, comme je vous l'ai mentionné, on a quand même assez souvent une hépatomégalie. Donc, c'est quand même important de faire une exploration complète de cette hépatomégalie et éliminer un autre problème de santé qui peut donner une hépatomégalie à cet âge-là. Et en cas de diabète, pareil, hein, en période néonatale, c'est important d'éliminer un diabète par anomalie de la voie du récepteur de l'insuline parce que certaines caractéristiques cliniques peuvent être un petit peu communes. Ensuite, à l'adolescence, les principaux diagnostics différentiels, ça va être les diabètes monogéniques hein, qui ont été décrits par le professeur Vantigem, et également quand même le diabète de type 2 de l'adolescent.
Et que faire chez les patients adultes, professeur Vantigem, une fois que le diagnostic a été établi?
Alors, le patient souvent est référé dans un centre de compétences, ne serait-ce que pour le diagnostic génétique qui n'est pas disponible dans tous les centres. Enfin, tout dépend un petit peu de la connaissance du médecin qui suggère le diagnostic. Souvent pour la prise en charge thérapeutique, ce sont les règles hygiénodiététiques qui sont au premier plan, puis la prise en charge classique d'un diabète en privilégiant les médicaments qui ciblent l'insuline résistance, et enfin dans certains cas l'indication de traitements spécifiques qui seront discutés justement en RCP national PRISIS.
Et chez les enfants pour lesquels le diagnostic a été posé, docteur Bismuth, quelle attitude adopter?
Alors, on est vraiment dans le champ des maladies rares, hein, voire même extrêmement rares. Donc, c'est vraiment indispensable que ces patients soient pris en charge dans l'un des centres de référence pédiatrique du réseau PRISIS, souvent pour confirmer le diagnostic si cela n'a pas été fait auparavant, et puis surtout mettre en place les thérapeutiques nécessaires. On reste hein, chez l'enfant dans une prise en charge le plus souvent diététique essentielle, mais très spécifique, donc il faut vraiment connaître. Et la particularité, c'est que justement cette prise en charge diététique, elle doit bien sûr tenir compte des besoins de croissance et de développement de l'enfant. Donc c'est vraiment très 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 important de se rapprocher au minimum et au mieux d'adresser l'enfant dans un centre de référence du réseau PRISIS. Ça permettra également bien sûr de faire l'annonce diagnostique et également d'organiser le dépistage familial, ce qui est très important.
Eh bien, merci mille fois, professeur Vantigem, docteur Bismuth, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare que sont les lipodystrophies. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.raralecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions pour votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite.